Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Insécurité grandissante et généralisée observée en province du Kwilu, l'administrateur du territoire de Bulungu a décrété depuis lundi 3 octobre un couvre-feu chaque nuit dans sa juridiction. Bernadette Mwakimi interdit d'ailleurs la circulation des mineurs déjà après 20 heures. C'est pour sécuriser et protéger sa population. En marge de pré-COP27, l'initiative interconfessionnelle pour les forêts tropicales en République démocratique du Congo recommande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour que les pays riches en carbone aient des moyens nécessaires afin de mettre un terme à la déforestation. Enfin, l'Office national de l'emploi ONEM est opérationnel dans le Haut-Katanga depuis de nombreuses années. Ces derniers temps, il s'observe un engouement de plusieurs personnes dans ces installations à la recherche de la carte des demandeurs d'emploi. Nous en parlons dans ce journal avec notre invité, Gérard Kasongo, directeur provincial de l'ONEM. Voilà tout pour le sommet. Mesdames et messieurs, bonjour. Dans la province du Kwilu, l'administrateur du territoire de Bulungu a décrété depuis lundi 3 octobre un couvre-feu qui se passera chaque nuit dans sa juridiction. Une décision prise à la suite de l'insécurité grandissante et généralisée observée en province du Kwilu à la suite du présumé conflit Teke-Yaka au territoire de Kwamut, Bandundu. Bernardin Mwakimi indique que cette décision a été prise lors d'une réunion du Conseil de sécurité qui a aussi interdit la circulation des mineurs après 20 heures. C'est là dans le but de sécuriser et de protéger sa population. Irène Boma nous fait le point.
Ce couvre-feu décrété par l'administrateur du territoire de Bulungu commence de 22h, heure locale, jusqu'à l'aube, et cela va rester ainsi jusqu'à nouvel ordre pour sécuriser les paisibles citoyens de cette partie du Kwilu. Pour Bernard Mwakimi, il s'agit d'une mesure préventive à la suite de l'insécurité grandissante dans la province du Kwilu, mais surtout à cause de l'incursion des assaillants présumés Yaka au territoire voisin de Bagata.
Nous avons pris cette mesure, c'est par rapport à l'insécurité qui gangrène partout, surtout la situation qui prévaut dans la province de Maïndombe, territoire de Kwamutu, et ce qui est arrivé dans le territoire de Bagata. C'est pour cela, étant qu'un bon chef, il faut prévenir déjà la population, il faut sécuriser la population. C'est pour cela, nous avons pris la décision d'organiser la patrouille pour la sûreté de notre population, tout en interdisant les mineurs de ne plus circuler au-delà de 20 heures.
Notez qu'à propos des informations répandues dans les réseaux sociaux faisant état d'une présence de personnes armées non autrement identifiées dans les parages de la cité de Bulungu, Bernard Mwakimi rassure que jusque-là, aucune personne identifiée comme telle n'a été trouvée par la police. Irène Boma, Badondoville, Radio Okapi.
En Ituri, 7 jeunes originaires du secteur de Banyalikilo dans le territoire de Djougou ont été exécutés mardi dans la localité minière de Lisséi par des assaillants du groupe armé URDPC Codeco. Selon des sources de sécurité, les victimes, qui sont tous des orpailleurs, auraient refusé d'être enrôlées par force dans cette milice. Plusieurs voix s'élèvent pour condamner ces tueries qui constituent selon eux un crime contre l'humanité. Marcel Kizabiamungu.
C'est depuis le 26 septembre dernier que 7 jeunes orpailleurs ont été pris en otage dans l'air carré minier par des miliciens de l'Union des révolutionnaires pour la défense du peuple congolais IRDPC, bar Codeco, et puis acheminés dans leur base dans la même entité. Objectif, les contraindre d'adhérer dans leur groupe armé très actif dans cette région minière. Selon des sources de sécurité, ces rebelles dirigés par le général autoproclamé au nom des Kadogo soumettaient ces jeunes à des travaux forcés et des actes dégradants. D'après les mêmes sources, c'est hier mardi vers 16h que ces orpailleurs ont été exécutés après avoir refusé de payer chacun $1000 de rations pour leur libération, ce qui rejette les responsables du groupe armé IRDPC, bar Codeco. Ces derniers accusent par contre certains notables de Banyalikilo de mener une campagne de diabolisation de leur mouvement pour faire échouer les processus de paix. L'administrateur du territoire de Djougou promet de se prononcer à ce sujet dans les heures qui suivent. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Et puis, 8 ans de massacre en territoire de Beni, c'est trop. Les vraies opérations de traque de rebelles s'avèrent urgentes. Déclaration d'un élu du territoire de Beni ce mercredi, à l'occasion du triste anniversaire en ce mois d'octobre, du début des tueries par des rebelles de l'ADEF à Beni. Cet élu de Beni estime que l'armée doit cesser de jouer à la défensive. Elle doit mener des actions offensives contre ces rebelles afin d'imposer la paix dans la ville en territoire de Beni, ajoute-t-il. Le député Jean-Paul Ngayangondi s'est confié à Marc Marofimbo.
D'abord, sur le plan militaire, ce qui est appelé à être fait, c'est relancer les opérations. On a besoin des opérations militaires, des traques de ces rebelles. Comment voulez-vous espérer à la paix lorsque vous ne voulez pas lancer des opérations contre l'ennemi? Et notre armée sur le terrain ne joue qu'à la défensive, ça je l'ai toujours dit. On a besoin plutôt des opérations d'offensive, c'est-à-dire amener la guerre à l'ennemi là où il est. La population a plus besoin des opérations militaires. Parce que l'armée est là pour protéger l'intégrité du territoire national. Protéger la population, il sait bien. Une armée républicaine ne peut pas permettre qu'il y ait des gens porteurs d'armes sur le sol qu'ils contrôlent. Et dans le cas d'espèce à Beni, on voit des militaires qui sont déployés là-bas, qui n'ont rien comme moyen pouvant leur permettre à imposer la paix. Et la population est abandonnée. Et moi, je suis en train de dénoncer cette léthargie des autorités de ces pays qui sacrifient nos électeurs dans cette partie du territoire national.
Et puis au sud, Kivu, lueur d'espoir pour les populations civiles dans les hauts plateaux du territoire d'Uvira au sud. Les forces de la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, opérant conjointement avec les FARDC basés à Masango et Maeta, ont détruit plus de 5 barrières érigées illégalement par des groupes armés pour tracasser les populations civiles. Selon le chef de groupement de Bijombo, Amissi Tete, qui est rentré ce mercredi à la région des hauts plateaux de la chefferie de Bafuliru et de la chefferie de Bavira, le vivre ensemble reprend progressivement entre toutes les communautés locales dans cette région. Fiston Goma.
Au cours d'une patrouille conjointe au village Rouesh dimanche dernier, les forces conjointes ont enlevé une barrière illégale érigée par les éléments des FRDC basés dans la zone. Cette barrière servait, selon des sources locales, pour harceler les passants civils. 3 éléments FRDC retrouvés à cette barrière ont été interpellés. Les chefs de groupement de Bijombo Amissi Tete confirment que plusieurs autres barrières érigées par des miliciens et des bandits armés n'existent plus dans la zone sous contrôle des forces conjointes. Les Banyamulenge, les Fuliru et toutes les autres communautés civiles se fréquentent dans le village. Ils font ensemble le même marché et fréquentent le même centre hospitalier. Les gens circulent librement. Des rapports de la société civile locale font état de la mort d'un bandit armé après avoir été torturé. Les forces conjointes l'ont surpris en train d'extorquer le piéton sur l'axe Maeta. Ces forces conjointes approchent en ce moment de Bijombo. Cependant, leur progression plonge déjà dans la panique totale les habitants du camp des déplacés internes de Bijombo. Ces déplacés disent avoir peur de continuer à mener des activités agricoles régulières dans la zone agricole d'Ishenge, à 8 km au nord-est de Bijombo, où est signalée la présence des éleveurs de bétail porteurs d'armes. Ils disent craindre une éventuelle confrontation entre ces éleveurs de bétail Turwaneo et les forces conjointes de l'EAC à leur arrivée. D'Uvira, Fiston Goma, Mayaba, la radio Okapi.
Reste avec nous, Fiston Goma. Cette fois-ci, nous parlons de Kamanyola, dans le territoire de Walungu, où les activités ont repris depuis hier mardi soir. C'est là après 2 journées très tendues, avec des manifestations publiques après la tuerie d'un jeune commerçant. Le jeune en colère avait barricadé l'artère principale sur une distance de 7 km entre le pont Kamanyola et la frontière congolo-rwandaise, demandant la relève d'une nouvelle unité des FARDC qui venait d'être déployée dans ce groupement. D'après le chef local, la situation a été décantée par la présence du commandant de la 33e région militaire des FRDC, Fiston Goma.
Le dernier soldat de l'unité des FRDC, incriminé dans la tuerie du jeune commerçant de Kamanyola, s'est retiré ce mercredi dans la matinée. Cette unité des FRDC est déployée ailleurs et du coup, elle est remplacée par une nouvelle unité de l'armée. Le commandant de la 33e région militaire des FRDC Sud Kivu, le général Yavungola, a assuré en personne cette relève telle qu'exigée par la jeunesse de Kamanyola. Le chef de cette entité s'est dit satisfait. Il souhaite que cette solution apporte un soulagement face à l'insécurité grandissante à Kamanyola. François Tabaromigabo Papi.
Les élèves sont partis à l'école, nos mamans sont parties au champ et les véhicules ont commencé depuis plusieurs faire mouvement. Donc toute la population va déjà à ses occupations.
Signalons qu'un député provincial et un national élu de Walungu ont combattu avec la population locale. L'un d'eux a apporté une assistance en nourriture à 1 000 000 de voyageurs bloqués depuis 2 jours à Kamanyola. Lundi dernier, une manifestation spontanée des jeunes avait provoqué une tension après qu'un groupe de militaires de FRDC ait été soupçonné d'avoir assassiné un jeune commerçant dans un quartier de Kamanyola. D'Uvira, Fiston Goma, Mayaba, la radio Kapi.
L'initiative interconfessionnelle pour les forêts tropicales en République démocratique du Congo recommande au gouvernement réuni à la pré-COP 27 de prendre des mesures concrètes pour que d'ici 2030, les pays ayant des forêts tropicales humides en grande partie de plus intactes et de plus riches en carbone du monde aient les moyens nécessaires pour mettre un terme à la déforestation et à la dégradation des forêts naturelles. Monseigneur Donatien Cholet, président de cette structure qui est présent à la pré-COP 27, a fait cette déclaration ce mardi 4 octobre ici à Kinshasa en marge de ses travaux. Paul Matendo.
Dans sa déclaration, Monseigneur Donatien Cholet insiste particulièrement sur le besoin des femmes.
Considérant que les femmes sont les plus exposées, les grandes multinationales ainsi que le gouvernement devront tenir compte de leurs besoins spécifiques dans la mise en place des stratégies d'adaptation et d'atténuation.
Parlant du secteur des hydrocarbures, l'IRI RDC demande à la COP 27 que les fonds verts pour les climats ainsi que les autres mécanismes de la finance climatique permettent effectivement à la RDC d'éviter l'exploitation du pétrole et du gaz.
Nous demandons à l'Assemblée de la Pré-COP 27 de faire en sorte que les fonds verts pour le climat ainsi que les autres mécanismes de finance climatique permettent d'éradiquer la pauvreté et d'assurer l'accès universel à l'énergie propre à la RDC.
L'IRI RDC est une alliance multifonctionnelle qui s'efforce d'apporter un leadership moral et une action confessionnelle aux efforts visant à mettre fin à la déforestation.
Retournons au Sud Kivu, une délégation des officiels britanniques a rendu visite ce mardi au docteur Mukwege à l'hôpital de Panzi. Il s'agit du ministre d'État britannique et envoyé spécial du Premier ministre pour la prévention des violences sexuelles dans les conflits et la comtesse Sophie de Wessex, épouse du prince Édouard, fils cadet de la défunte reine Elisabeth. Sur place à Panzi, les deux personnalités britanniques ont voulu palper du doigt la réalité des femmes survivantes des violences sexuelles. Reportage Cynthia Bachizi.
Cette visite avait un double objectif, apporter un message de réconfort à ces survivantes, ensuite rassurer de l'accompagnement du gouvernement britannique dans la lutte contre les violences sexuelles qui rongent l'est de la RDC. Lord Ahmad.
It's important that our being here also is a strong signal.
Le fait que je sois ici pour toute la région, c'est un grand signal.
That we support not only the work of the Panzi Hospital.
Que nous supportons sincèrement le travail que Panzi, l'hôpital de Panzi fait.
But also the efforts which are being made in the DRC to build peace.
Mais que le message que nous avons pour la RDC est qu'il faut qu'il y ait la paix.
Le docteur Denis Mukwege s'est lui indigné face à la récurrence des conflits et guerres atroces en RDC dont les femmes sont les principales victimes.
Les guerres atroces et les conflits ici en République démocratique du Congo ont transformé les corps des femmes en champs de bataille durant plus de 25 ans. Certaines ont été violées à peine quelques mois, d'autres l'ont été maintenant pour la seconde fois.
Les deux personnalités britanniques tenaient aussi à se rendre à l'hôpital de Panzi pour s'imprégner du modèle holistique de prise en charge des survivants des violences sexuelles, cela en prévision de la conférence internationale sur la prévention des violences sexuelles en temps des conflits qui sera organisée en novembre prochain à Londres. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Et puis en prévision de la révision du fichier électoral pour les élections de 2023 en RDC, la CENI vient de déployer des équipes de repérage des sites pour l'identification et l'enrôlement des électeurs congolais à l'étranger. Afrique du Sud, France, Belgique, États-Unis et Canada sont les 5 pays retenus par la centrale électorale pour procéder à cette opération prévue au mois de décembre prochain. Diafungoy pour les détails.
La CENI prévoit de faire participer les Congolais de la diaspora au processus en cours. Il s'agit d'un projet pilote. C'est dans ce cadre qu'elle lance des missions de repérage des sites d'identification et d'enrôlement des électeurs dans les pays visés. Ces différentes délégations sont déjà à pied d'œuvre depuis lundi dans ces pays en prévision de l'opération de la révision des fichiers électoraux. Le but étant de recueillir toutes les informations utiles pour le dit enrôlement. Les premières rencontres se font dans les ambassades congolaises au cours de ces échanges, les chefs des missions diplomatiques congolaises se réjouissent de l'option prise par la centrale électorale de prendre en compte les Congolais de l'étranger. Ils souhaitent voir une adhésion massive des populations à ces opérations en accomplissant le moment venu ce devoir civique à l'instar des autres Congolais. Le choix porté sur ces 5 pays se justifie, selon la CENI, par la fluidité, l'accessibilité et la forte concentration des Congolais en lieu et place des pays limitrophes de la RDC où se pose le problème récurrent de l'insécurité et des conflits de frontières.
Actualité internationale.
Le ministère ougandais de la Défense a annoncé mardi que le fils du président Yoweri Museveni, Muhoozi Kainerugaba, était remplacé par un autre militaire à la tête des forces terrestres du pays, quelques heures après qu'une série de tweets du fils a provoqué un tollé au Kenya. Le fils du président Museveni a suggéré qu'Uhuru Kenyatta aurait dû violer la constitution kenyane en briguant un troisième mandat. Il a ensuite affirmé qu'avec son armée, il prendrait Nairobi en moins de 2 semaines avant de se demander dans quel quartier cousu de la capitale il pourrait s'installer.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal, c'est Gérard Kasongo, directeur provincial de l'ONEM. L'ONEM est opérationnel dans le Haut-Katanga depuis de nombreuses années. Ces derniers temps, il s'observe un engouement de plusieurs personnes dans ces installations à la recherche de la carte des demandeurs d'emploi. Il s'entretient ici avec Jean Ngando. Suivez.
Gérard Kasongo, bonjour.
Bonjour.
Quel est le rôle de l'Office national de l'emploi dont vous êtes le directeur provincial?
La mission qui lui a été confiée consiste à promouvoir l'emploi et réaliser en collaboration avec les organismes publics ou privés intéressés, c'est-à-dire les créateurs d'emplois, la meilleure organisation du marché de l'emploi. Pour accomplir sa mission, l'ONEM est chargé de l'intermédiation, c'est-à-dire le rapprochement entre les chercheurs d'emploi et les créateurs d'emploi. Dans cette activité-là, l'ONEM est chargé d'accueillir, d'organiser des entretiens avec les demandeurs d'emploi, les orienter et les enregistrer pour constituer ce que nous appelons une base de données des demandeurs d'emploi.
Mais lorsque vous établissez cette base de données et après vous remettez une carte des demandeurs d'emploi, alors dites-moi, en quoi est-il important d'en avoir?
La carte de demandeur d'emploi, en fait, c'est un document qui nous permet de tracer le parcours du demandeur d'emploi. C'est-à-dire, le jour où il trouve l'emploi, cette carte doit être retournée pour nous permettre de mettre à jour cette base de données. Et quand quelqu'un trouve l'emploi, normalement, il est désactivé. C'est ça qui nous permet, en fait, de tracer, en fait, la mobilité et le parcours du demandeur d'emploi. Ils viennent avec leur carte d'identité, 2 photopasseports, leur pièce d'études. Si ils n'ont jamais travaillé, s'ils viennent de terminer leurs études, et s'ils ont un passif professionnel, ils viennent aussi avec leurs documents justifiant, bien sûr, leurs références professionnelles antérieures. La carte est gratuite. Ça nous permet aussi de mieux gérer les statistiques en matière d'emploi.
Pouvons-nous avoir le nombre d'emplois qui ont été créés depuis le début de cette année?
Depuis le début de cette année, je suis en mesure de vous dire que selon l'enregistrement des contrats qui nous arrivent, nous sommes à plus de 4500 contrats enregistrés pour la province du Haut-Katanga.
Et quels sont les secteurs qui ont créé le plus d'emplois?
On pourrait peut-être penser directement au secteur des mines, mais c'est beaucoup plus le secteur des services. Il y a le gardiennage, il y a aussi d'autres services. Donc, les activités de conseil, les activités de consultance, il y a aussi beaucoup d'emplois qui se créent dans ces secteurs. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que plus on avance en âge, plus les chances de trouver l'emploi diminuent. Sauf, bien sûr, si vous justifiez d'une forte expérience professionnelle et que le besoin exprimé est difficile à être comblé. Là, alors, l'employeur est obligé de prendre des gens qui ont un âge avancé. Sinon, dans les recrutements, on ne va pas au-delà de 45 ans.
Vous ne pensez pas que 4000 emplois, c'est quand même peu? Quand on considère qu'il y a beaucoup d'entreprises minières, il y a beaucoup d'entreprises de services et tout, est-ce qu'il n'y a pas quelque part un chiffre noir que vous ne maîtrisez pas?
Il est vrai que aujourd'hui, il y a des emplois qui se créent. Il y a des entreprises qui se font enregistrer. C'est vrai, il y a des informations qui peuvent nous échapper. Vous devez savoir que l'ONEM est essentiellement basé dans les grandes villes. Nous ne sommes pas implantés à l'intérieur de la province. Là, il est tout à fait normal que s'il y a des choses qui se créent à ce niveau-là, pour que l'information nous parvienne, il faut que, au niveau de ceux qui créent ces entreprises, ou qui créent ces emplois, qu'ils se souviennent qu'il y a des lois auxquelles ils doivent se soumettre. Là, alors, ils viennent et nous apportent les informations.
Qu'adviendra-t-il à une entreprise qui recruterait les demandeurs d'emploi qui ne soient passés par chez vous?
En fait, une entreprise qui ne respecte pas la procédure, elle doit être normalement sanctionnée. Ça constitue une entrave à la procédure et ça ne nous permet pas à ce moment-là de fiabiliser nos statistiques. Or, quand nous on doit parler de la meilleure organisation du marché de l'emploi, on doit maîtriser en tout cas les statistiques. Toute entreprise normalement ne peut pas prendre quelqu'un non identifié à l'ONEM. C'est une entrave à la procédure.
Gérard Kassongo, je vous remercie.
C'est à moi de vous remercier, monsieur le journaliste.
Voilà, complètement terminée cette édition du journal, mise en onde par Mimi Kindou, coordonnée par Jean-Désiré Kanyama, sous la supervision de Ben Kabamba. Merci pour votre particulière attention.